France Musique.
Carrefour des Amériques.
Une série de Marcel Quilliveret pour les médias francophones publics.
Du Mexique à La Havane, premier compagnon de voyage, Jacques Kerouac. Bonjour et bienvenue à vous tous en notre compagnie sur les routes des Amériques, et c'est le cas de le dire aujourd'hui, on the road. Nous sommes south of the border, nous venons de franchir la frontière des États-Unis et nous entrons au Mexique en compagnie de l'écrivain Jacques Kerouac et de ses amis. C'est leur troisième grand voyage. On est en 1950, l'espace mexicain s'ouvre devant eux, il les fascine, c'est la toute fin de son récit. On the road, sur la route. Nous avions enfin trouvé le pays magique au bout de la route et nous n'avions jamais imaginé l'ampleur de cette magie. Nous étions immédiatement transportés dans le désert. En face de nous, les montagnes immenses aux sommets enneigés, puis ensuite les pays marécageux, à la sortie de Rio Soto, près d'Hidalgo. Au-delà, c'était la ville de Gregoria.
Tienen otro nombre y creo que no se salvan, sin embargo no sé dónde, porque son las meras diablas, porque son las meras diablas que descomponen al hombre.
La bande fait escale dans la petite ville de Gregoria et s'installe près d'une maison de passe. C'était un magnifique bâtiment en stuc, doré par le soleil. Derrière le bar se tenait le propriétaire, un jeune gars qui s'est approché aussitôt de nous quand nous lui avons dit qu'on aimerait bien écouter du mambo. Il est revenu avec un tas de disques de Pérez Prado et il a branché le haut-parleur. Tout Gregoria pouvait entendre la fête que nous faisions dans la salle de bal. La moitié de la ville était aux fenêtres pour voir danser les Americanos avec les filles. Mambo Jambo, Chattanooga Mambo et le Mambo numéro 8. Les trompettes résonnaient tellement que j'ai pensé qu'on devait les entendre dans le désert. Après tout, c'est là qu'étaient nées un jour les trompettes. Voilà donc comment Jacques Kerouac a rêvé de Cuba au Mexique en dansant le mambo et sans aller jamais à Cuba. À Cuba où nous allons nous retrouver en ce début des années 50. Le pays est en plein développement économique, il vit dans une sorte d'euphorie, le mambo fait fureur partout et la musique classique est à l'unisson. La saison du philharmonique est brillante, les mélomanes cubains affluent dans les théâtres. En 1950, c'est un chef français naturalisé américain, Jean Morel, réfugié aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui débute l'année à la tête de l'Orchestre philharmonique. Il a 47 ans, il dirige régulièrement à l'Opéra de San Francisco et au New York City Opera. À La Havane, il crée une œuvre française, la procession nocturne d'Henri Rabaud, Rabaud qui venait de mourir à Neuilly. Puis c'est le pianiste Arthur Rubinstein qui joue le concerto numéro 1 de Chopin sous la direction de Rosenstock, Rubinstein qui donne à la suite deux récitals fin janvier au Théâtre Auditorium. Le théâtre affiche complet dès l'ouverture de la location. Le succès de Rubinstein est tel que la Direction nationale de la culture lui propose de jouer le dimanche 29 janvier le concerto numéro 1 de Tchaïkovski avec l'Orchestre philharmonique sur la place de la cathédrale lors d'un concert populaire gratuit. À la fin du concert, Rubinstein est bouleversé par cet immense public debout qui l'acclame. Lors de son récital, il avait joué la sonate en ut majeure de Beethoven, très applaudie, puis Schumann, Chopin et les Espagnols, de Falla, Granados, Albéniz, notamment la splendide évocation extraite d'Iberia où le fandango se mêle au chant en forme de jota aragonaise. « Le 2 mars 1950, c'est la soprano noire américaine Dorothy Maynor qui donne un récital au théâtre Auditorium. Elle chante Handel, Mozart, Brahms, Reinaldo Hahn et Debussy, et son grand succès, le chant à la lune de l'opéra Rusalka d'Anton Dvorak. C'est Koutsevitsky qui l'avait découverte. Il avait fait chanter au Festival des Berkshires. Elle a été la première chanteuse afro-américaine à chanter pour un gala présidentiel. C'était pour le président Harry Truman en 1949. Enfin, Dorothy Maynor a été la fondatrice de l'école d'art de Harlem à New York. Elle chante ici l'air de Rusalka de Dvorak, enregistré en 1950 au War Memorial Opera House de San Francisco. L'orchestre est placé sous la direction de Pierre Monteux.
dreams of me. Gently may memories waking. Oh, moon, dear moon above, shine for me.
Après son séjour aux États-Unis et en Espagne, le compositeur cubain Ernesto Lecuona est de retour à La Havane en 1950. Il organise d'abord la saison théâtrale de la compagnie de la comédienne espagnole Eugenia Zuffoli au théâtre principal de la Comédie, puis il fait une grande tournée à travers tout le pays. À son retour à La Havane, il invite ses cantatrices favorites pour un récital de chansons cubaines au Théâtre National. Parmi elles, une voix qu'il venait de découvrir et qui deviendra une amie fidèle, la voix de Sarita Escarpenter. Elle chante une de ses mélodies avec Lecuona au piano et un orchestre. Enfin, l'amour est venu dans ma vie, Alphine.
El amor que yo he soñado, me ha mirado y me ha besado.
En 1950, la saison de récital accueille à La Havane pour la première fois le Quatuor à cordes de Londres. Puis se succèdent Ricardo Otnoposov, Arthur Schnabel, Ruggero Ricci, sans compter les enfants du pays, le pianiste Jorge Bolet et le violoniste Angel Reyes. Et puis trois Français, Zino Francescatti et Nicolas Riaud qui reviennent à La Havane et Aldo Ciccolini qui vient pour la première fois. Ciccolini était né à Naples en 1925. Il avait remporté le prix Marguerite Long Jacques Thibault à Paris en 1949. Il avait débuté alors une carrière internationale par une tournée de 8 mois en Amérique latine. Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro. Et en 1950, sur le chemin de New York, il fait escale à La Havane. La presse le présente partout comme un grand défenseur de la musique française. Debussy, Ravel et aussi Déodat de Sévrac, Chabrier et Satie. Et puis il vient de découvrir Scarlatti. D'ailleurs, en 1950, il enregistre son premier disque avec des sonates de Scarlatti, justement, comme cette sonate en sol majeur, Kirkpatrick 254.
Thank you.
Comme on le voit, la France est très présente à La Havane à l'époque. D'ailleurs, la Société des Amis de la Culture Française fête son 31e anniversaire en décembre 1949. Et puis, sur la plus grande radio cubaine, la CMQ, chaque dimanche, dans la rubrique Cinéma et Théâtre, il y a un Noticiero Francés, un journal culturel français qui informe les Cubains de tout ce qui se joue à Paris, au théâtre, au cinéma et dans les salles de concert. La radio est toujours aussi dynamique et très écoutée dans le pays. L'événement du jour, El Suceso del Día, est toujours aussi populaire, avec sa fameuse Guantanamera, qui vient à la fin donner la morale de la chronique. Et puis les feuilletons. Le feuilleton El Derecho de Nacer, le droit de naître, est tellement écouté que les rues des villes et des villages se vident à l'heure de sa transmission. Quant à Radio Progreso, qui en effet progresse de jour en jour, elle possède en 1950 l'émetteur le plus puissant de Cuba. Chaque station se dispute les grands artistes populaires. Et le pianiste et chanteur noir Bola de Nieve anime sur la CMQ tous les lundis à 20h El Gran Show de Bola de Nieve, avant d'avoir bientôt une émission de télévision. Son émission passe juste avant une autre émission très très populaire, un taux d'audience énorme, à 22h, des Fiesta con Bacardi, en fête avec le rhum Bacardi. Eh bien, on va se joindre au public qui assiste au grand show de Bola de Nieve. Il est enregistré sur le vif dans le grand théâtre studio de Radio Centro de la CMQ de La Havane. C'est une berceuse au petit Lacho. Lacho, mon petit, il est temps que tu t'endormes. Toute la tendresse de Bola de Nieve.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Lacho, mira que tú estás increí, porque tú son más criado. Tú no son negro que pues está cagao. Tus mares no son ricos y tus pares no son más que babalao. La, 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 Lacho, ¿qué pasa? Que tú no quieres jugar, ni tampoco está acostado. Yo te canta que canta y tú no drume. Yo te va a dar pau, pau. Drume Lacho, drumete ya. Que tu madre tiene que ir a bembe, que hoy tocan pa yemaya. La, 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 la. Lacho.
En 1950, il y a aussi de plus en plus d'émissions culturelles à la radio. Des débats, des émissions littéraires, mais aussi des pièces de théâtre dans leur intégralité. La CMQ programme des concerts des grands orchestres du monde entier et le dimanche à 15h, des retransmissions d'opéra. Et il y a aussi la radio CMBF, fondée en 1948 et spécialisée dans la musique classique. La CMBF qui existe toujours aujourd'hui et que nous remercions régulièrement pour sa collaboration. Et enfin, la Radio Habana Cuba, la RHC, qui retransmet les concerts du Philharmonique de La Havane. En janvier et février, c'est Serge Koussevitzky qui est à la tête de l'orchestre. Puis il cède la baguette à Eugène Normandie et à Fritz Busch, c'est la ruée au Théâtre Auditorium. Puis c'est Arthur Rodzinski qui dirige la Phalange Havanaise jusqu'à la fin de la saison début mai. Il aime sortir des sentiers battus. Il aime diriger aussi les concerts Place de la Cathédrale. Il fait venir Andrés Segovia pour créer le concerto pour guitare de Castelnuovo Tedesco. La soprano cubaine Iris Burguet dans la Bacchiana numéro 5 de Villa-Lobos. Et le jeune violoniste Michael Rabin dans le concerto pour violon de Wieniawski. Michael Rabin n'avait que 13 ans. Il venait de triompher au Carnegie Hall. Dimitri Mitropoulos l'avait aussitôt engagé avec le Philharmonique de New York. À La Havane, il est bouleversant d'émotion dans le concerto de Wieniawski, une interprétation dont la sérénité et la simplicité ont bouleversé le public havanais qui l'a ovationné. Triste destin que celui de Rabin. Victime de troubles neurologiques graves, il est mort accidentellement à New York à l'âge de 35 ans. Eugene Goossens dirigeait ici le Philharmonia Orchestra et Michael Rabin au violon dans le deuxième mouvement du deuxième concerto pour violon et orchestre de Wieniawski. En 1950, à Cuba, le gangstérisme, entre guillemets, à l'université s'est calmé. Même Fidel Castro, le jeune étudiant en droit, s'excuse publiquement d'en avoir été protagoniste. Il dénonce ce fameux gangstérisme et avoue avoir été un indicateur de la police. Durant cette période d'accalmie de janvier à août 1950, il rêve de quitter Cuba pour de bon et d'aller poursuivre ses études supérieures aux États-Unis. Il fait même une demande de bourse. Et tout d'un coup, il part pour New York sans crier gare. Quand il revient, il ouvre son cabinet d'avocat à La Havane. En novembre, le pays est en deuil. Eliseo Grenet, l'un de ses plus grands musiciens populaires, vient de mourir. Une foule impressionnante accompagne le cortège funèbre. La banda municipale de La Havane a joué son lamento cubain sous la direction de Gonzalo Roig. Peu avant sa mort, Eliseo Grenet avait composé « Tabaco Verde », le tabac vert, une chanson qui décrit la beauté de la région du tabac près de la vallée de Viñales. La meilleure interprétation, on la doit au quatuor vocal que la pianiste Aida Diestro a réuni en 1952, le Cuarteto d'Aida.
La Vega se pierde en sus casas de nieblas azules, el cielo brillante, su lumbre consume. La linda veguera es fruto en pulpa y en su se sutiliza en tu palidez.
Ce merveilleux Cuarteto d'Aida avec des chanteuses qui vont devenir tellement célèbres. Elena Burke, Ormara Portuondo et sa sœur Aide et Moraima Secada. En 1950, les amateurs d'opéra sont à la fête. Il y a deux saisons lyriques à La Havane cette année-là. D'abord en avril, grâce à une association d'artistes lyriques cubains et de fous d'opéra qui ont décidé de construire un théâtre à l'intérieur du Palais des Sports qui se trouvait à l'époque à deux pas du front de mer. Le programme a dû changer en cours de route, mais le public est resté fidèle. Dans la fosse, 60 musiciens de l'orchestre philharmonique, dirigés par le grand chef d'orchestre Nicolas Recinio, et sur scène le chœur national. Le 9 avril, c'est le ténor québécois Raoul Jobin et la soprano américaine Gertrude Ribla qui chantent Cavalleria Rusticana et Payas. Et puis le 15 avril, alors c'est une Aïda avec tout ce qu'il faut comme grand spectacle pour ce palais des sports, avec Gertrude Ribla et le ténor espagnol favori des Cubains, Hipólito Lázaro. Une saison qui s'achève avec Rigoletto et la Bohème. En mai, début de la saison lyrique internationale de Pro Arte, avec Don Giovanni de Mozart. De grands chanteurs à nouveau, Rose Bompton et Regina Resnick notamment. Suivent André Chénier, Tosca et Manon Lescaut avec Erva Nelly. Erva Nelly était née en Italie, mais c'est aux États-Unis où la famille avait émigré, alors qu'elle n'avait que 10 ans, qu'elle va faire une superbe carrière. C'est après son audition pour Toscanini en 1947 qu'elle est devenue la soprano favorite du maître italien, qui lui a même légué sa baguette dans son testament. On écoute Erva Nelly dans un concert mémorable enregistré le 12 octobre 1952 par la NBC à l'Opéra de San Francisco dans l'air Suicidio de la Gioconde de Ponchielli. L'orchestre est dirigé par Gaetano Merola.
Thank you. Miss Erva Nelly has sung Suicidio from Ponchielli's opera La Gioconda.
Erva Nelly dans l'air de la Gioconde de Ponchielli. Pour les fêtes de fin d'année à Cuba, le 30 décembre 1949 est inauguré un nouveau théâtre. Un magnat cubain de la presse voulait offrir à son épouse Blanquita et à Cuba un théâtre plus grand que le Radio City Music Hall de New York. Il lui a donné bien sûr le nom de Théâtre Blanquita, dans le quartier très chic de Miramar, face à la mer Caraïbe. Il compte près de 6500 places et il est inauguré par une revue grandiose de Paris à New York, avec une centaine d'artistes où les numéros d'acrobatie et de cirque alternent avec des numéros dansés et chantés. Des milliers de spectateurs vont remplir ce théâtre durant l'année 1950. Au Théâtre Américain, autre grand événement, c'est l'arrivée de Josephine Baker en novembre. Et elle débarque par une journée bien grise d'automne havanais, accompagnée du chansonnier français Roland Gerbeau et de son troisième mari, Joseph Bouillon, compositeur et chef d'orchestre, qui annonce à la presse que Joséphine va chanter aussi des chansons cubaines dans son spectacle. Les répétitions se déroulent à un rythme très soutenu jusqu'à la première le 27 novembre. Les Cubains s'arrachent les places, Joséphine joue tous les soirs. Sur scène, il y a aussi son orchestre favori, celui du Cubain Armando Refice. Les Havana Cuban Boys qui sont revenus d'Europe spécialement pour le spectacle de Josephine Baker. Les Havana Cuban Boys qui annoncent en rumba l'entrée en scène de la diva que tout le monde attend. Entre les représentations, Josephine Baker veut revoir à La Havane ses amis cubains de Paris. Quel choc quand elle apprend qu'ils sont morts tous les deux. Moïse Simons à Madrid en 1945. Quant à Eliseo Grenet, il vient de décéder à La Havane. Mais elle ne les oublie pas. Elle sait qu'elle doit être plus que jamais la grande Josephine Baker sur la scène du Théâtre América de La Havane tous les soirs devant 1800 spectateurs. Et on va se quitter alors que l'un de ses spectacles s'achève. Avant de prendre congé de son public, Josephine Baker interprète ses dernières chansons. Bésame mucho en anglais et Sense Maya de Gilberto Valdés en espagnol. Un chant rituel afro-cubain pour tuer une couleuvre.
This joy is something new, my arms enfolding you, never known this thrill before. Who
would ever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore.
Bonsoir tout le monde, petit et grande. Buenas noches todos. Good night, everybody.
Au revoir.
On se quitte avec Joséphine Baker qui fait un triomphe à La Havane où elle va rester 2 mois et demi. Raison de plus de se retrouver dans le prochain Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Cédric Châtelus, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.